France Inter, le 18-20.
Et voici Une semaine en France. Elle a reçu les plus prestigieuses récompenses au théâtre et au cinéma. César de la meilleure actrice pour son rôle dans Stand By, plusieurs Césars de la meilleure actrice dans un second rôle, prix d'interprétation féminine au Festival de Venise pour le film L'Autre, Molière de la meilleure comédienne, trois fois. Dominique Blanc est l'invité ce soir d'Une semaine en France jusqu'à 19h, pensionnaire de la Comédie française depuis 3 ans. Dominique Blanc joue en ce moment Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman. Au programme de cette émission réalisée par Frédéric Milano et préparée par Irène Menahem, Les bonnes ondes de Sandrine Houdin, un reportage qui redonne le moral, une opération du secours populaire pour les femmes, une journée pour soi. 19h20, le téléphone sonne. L'attaque de deux gardiens à la prison de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé. Y a-t-il des failles dans la sécurité des prisons et dans la prise en charge particulière des prisonniers radicalisés? On attend vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Pierre Veille, Une semaine en France.
Bonsoir Dominique Blanc.
Bonsoir.
J'ai rappelé votre prestigieux parcours hein, au cinéma, au théâtre. Patrice Chéreau, Luc Bondy, Jean-Pierre Vincent, Antoine Vitesse, Claude Sautet, Louis Malle, Lucas Bellevaux, Nina Companès, Michel Piccoli, Éric Ruff, et j'en oublie, vous ont dirigé sur scène et au cinéma. Une vie d'artiste réussie, c'est une vie faite d'une volonté de faire, d'abnégation. On vous a quand même refusé plusieurs fois lors de concours de théâtre prestigieux.
Oui. Mais en fait, je pense que la vie est faite de beaucoup de refus aussi et de beaucoup d'échecs aussi. Donc, au tout début, on va dire, de la carrière, du travail, j'ai tenté le Conservatoire National d'Art Dramatique, j'ai tenté d'autres écoles où donc j'ai été refusée. Au bout d'un moment, je crois que c'est très stimulant pour le désir et pour l'envie et pour s'accrocher encore plus et pour la pugnacité, certainement.
Alors vous jouez à la Comédie française Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman avec 18 autres comédiens français. Oui. Fanny et Alexandre, c'est le dernier film de Bergman en 1982. Oui. C'était un livre aussi. Alors nous sommes au début du XXe siècle à Stockholm.
1907.
Voilà, une famille, les Ekdal, qui possèdent un théâtre, fête Noël, une ambiance très 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 joyeuse. Il y a Oscar, le directeur, c'est Denis Podalydès.
Oui.
Son épouse Émilie, elle aussi comédienne. Et puis il y a la mère d'Oscar, c'est vous, oui. Elena. Oui. Ancienne comédienne et fière d'être une ancienne comédienne. Et puis Fanny et Alexandre, les enfants d'Oscar et Émilie et de nombreux autres personnages truculents, fêtards. Que nous dit cette fête? C'est la première partie de la pièce.
Oui. Alors, elle nous dit que cette famille des Ekdal, qui possède un théâtre donc à Stockholm, c'est une famille incroyablement vivante parce que très proche justement du théâtre qu'elle pratique de façon très quotidienne. Au fond, cette famille, elle vit carrément dans le théâtre, je dirais. Alors, il y a eu le livre, il y a eu le film de cinéma, il y a eu la série télévisée aussi. Là, le travail a été passionnant parce que l'adaptation a été faite par Julie Deliquet et aussi Florence Zévos, qui est un très bel auteur de romans, et aussi Julie André. Et donc, on a travaillé pendant 2 mois de façon extrêmement intense avec Julie Deliquet. Et cette jeune femme nous a fait travailler, moi j'avais déjà travaillé avec elle sur Vania, avec beaucoup d'improvisation. Ce sont des travaux, extrêmement intenses qui vont de 13h à 18h. C'est des improvisations qui sont très scénarisées, qui sont très précises, mais qui demandent une extrême concentration. Donc vous sortez de là, vous êtes totalement épuisé. Et en même temps, ça donne un spectacle qui est un triomphe, on peut le dire, hein. Parce que toutes les critiques sont unanimes.
Et puis alors, j'ai noté qu'elle vous a demandé de tourner des mini-films, oui, à la Comédie française sur votre intimité avec, oui, ce lieu. Et vous avez donc fêté, les comédiens français, vous avez fêté Noël ensemble?
Ah oui, le 24 décembre à midi, elle nous a demandé de venir avec de la nourriture. Donc chacun est venu avec des choses qu'il avait faites ou achetées, ou peu importe. Et on a fait une répétition de 13h à 17h ce jour-là. Elle nous a quand même lâchés pour la veillée de Noël. Mais c'était extraordinaire. C'est une méthode vraiment extraordinaire.
Alors Fanny Alexandre et puis Oscar, dans cette pièce, bien sûr, il va mourir en jouant sur scène.
Oui.
Et là, c'est la deuxième partie. Son épouse, Émilie, décide de quitter le théâtre.
Voilà,
la comédie.
C'est Elsa Le Poivre.
Voilà, elle refait sa vie.
Magnifique comédienne.
Elle refait sa vie avec un religieux, un évêque. Elle pense qu'avec lui, sa vie va retrouver une authenticité loin du jeu permanent des gens de théâtre. Erreur terrible. Cet homme va se révéler violent, sinistre, tyrannique. Alors, cette pièce, elle parle finalement de beaucoup de choses. La famille, le couple, le danger des apparences, l'opposition des générations. Et puis, elle parle du théâtre.
Elle parle surtout du théâtre et du bonheur de pratiquer ce métier. Le personnage d'Elena est en fait quelqu'un qui a renoncé à jouer la comédie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ça sera un peu mon secret à moi, mon secret de fabrication, si vous voulez. Et puis, en même temps, quand ils fêtent Noël, chacun aussi fait son numéro. Donc, Julie Deliquet m'a dit, dès le début, on va enquêter en fait sur ton propre chemin. Et la première improvisation, je peux vous dire qu'elle était violente, puisqu'on était tous réunis pour fêter Noël, et elle a décidé, à 13h de l'après-midi, sans prévenir personne, de projeter Milou en mai, le film de Louis Malle.
Pour lequel vous avez reçu un prix de César.
Voilà.
Oui.
Mais moi, j'ai éclaté en sanglots au bout de 5 minutes et demie, quoi.
Est-ce que cette pièce pose la question de la place des acteurs dans la société et leur lien avec le réel ?
Bien évidemment, et puis je dirais aussi qu'elle pose la question des comédiennes. Comment est-ce qu'on pratique le théâtre aujourd'hui ? Où le pratique-t-on ? Comment arrive-t-il à survivre ? Comment arrive-t-il à... Comment dire ? Moi, je pense que le théâtre est le dernier lieu d'intelligence et de réflexion actuellement.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que c'est l'endroit où vous n'êtes pas interrompu continuellement dans votre pensée, dans votre raisonnement, dans votre expression. C'est le dernier lieu d'intelligence. Pardon, hein. Je pense que la radio peut l'être aussi. Et France Inter, bien sûr. Et France Culture. Mais le théâtre, c'est le lieu, c'est le dernier endroit où l'on réfléchit. Et je suis très étonnée d'ailleurs que les hommes politiques et les femmes politiques n'aillent pas plus souvent au théâtre, de même que les journalistes devraient aller plus souvent au théâtre, parce que c'est vraiment là, au fond, qu'on sent le pouls d'une société. Je crois, vraiment. Or, la Comédie Française, depuis qu'elle est administrée par Éric Ruff, puisque moi je suis rentrée à l'invitation d'Éric Ruff, elle est devenue ce lieu spécifique de réflexion sur le monde contemporain. Par exemple, puisque nous sommes la Journée internationale des droits de la femme, je peux vous dire que Éric Ruff a un choix éditorial très fort. Il a invité notamment énormément de jeunes femmes metteuses en scène, dont je peux vous dire les noms, et qui font des spectacles, par exemple en ce moment au Vieux Colombier, on a le Birgit Ensemble qui fait un spectacle qui s'appelle Les Oubliés sur Paris-Alger. Spectacle magnifique. Il va y avoir la semaine prochaine Chanson douce, d'après le vous connaissez l'auteur aussi bien que moi, je vais vous trouver son nom, ça y est, j'ai ma mémoire qui flanche.
Léa Slimani.
Voilà, la mise en scène sera faite par une jeune femme absolument merveilleuse qui est Pauline Bayle. Et puis, il y a d'autres femmes qui ont été conviées et qui seront encore conviées. Il y a Marie Raymond, il y a Pauline Bureau. Les Oubliés de Paris-Alger, c'est le Birgit Ensemble. Toutes ces jeunes femmes, si vous voulez, qui ont entre 30 et 40 ans et qui s'emparent de la mise en scène de théâtre, racontent le monde contemporain aujourd'hui.
On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Dominique Blanc, comme chaque vendredi, on revient sur l'actualité.
Oui.
La semaine écoulée, un clip, un film radio de l'actualité réalisé par Jérôme Chélius. Le mix de la semaine, les faits marquants. On écoute. Coup de tonnerre sur l'église, le cardinal Barbarin condamné jeudi à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des agressions pédophiles d'un prêtre de son diocèse. Le cardinal Barbarin en tire les conséquences.
Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles garde dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie.
Cette semaine, des émeutes à Grenoble après la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans sur une moto volée poursuivi par des policiers, jet de projectiles sur les forces de l'ordre, incendie de voitures et de bâtiments, comme cette école de la Croix-Rouge. Une de ses directrices, Christine Obahi.
Tout le rez-de-chaussée est complètement fondu, carbonisé, les faux plafonds sont en train de s'écrouler gentiment, tout est noir, couvert de suie, donc il va falloir voir comment on peut récupérer tout ça.
L'agression mardi de deux surveillants par un détenu radicalisé qui retrouvait sa compagne dans une unité familiale à la prison de Condé-sur-Sarthe. Ce détenu avait proféré des menaces il y a 3 ans lors d'une conversation au téléphone enregistrée par les services de sécurité, comme le raconte Thierry Cordelette, délégué syndical UFAP des gardiens de prison.
Il indiquait à l'époque qu'il voulait égorger un surveillant au nom d'Allah. Tout de suite, la hiérarchie a rendu compte des propos tenus à l'administration pénitentiaire. Mais on se rend compte que très rapidement, une fois le détenu transféré ailleurs, il n'y a pas de suivi.
Le football, le PSG éliminé, humilié mercredi soir. Match retour de la Ligue des Champions en 8e de finale, battu 3-1 par Manchester United. Au match aller, les Parisiens avaient gagné 2-0. Des supporters déprimés, en colère.
On était tous derrière, on a donné de la voix pendant 90 minutes. Ils n'ont pas assez mouillé le maillot à mon goût.
Je suis surpris vu l'équipe qu'ils affichent. On trouve étonnant vu l'investissement qu'ils ont fait. Si peu de retour en investissement, c'est surprenant.
Franchement, quand on voit Paris, c'est plus un club de marketing qu'un club de foot.
L'ONU, par la voix de son haut commissaire aux droits de l'homme, demande à la France d'enquêter sur les violences policières et un usage excessif de la force lors des manifestations de Gilets jaunes. Édouard Philippe n'apprécie pas du tout cette requête.
J'ai beaucoup de respect pour l'ONU en général et pour la haut commissaire que vous venez d'évoquer, mais je voudrais rappeler à tout le monde qu'en France, nous sommes un état de droit, que quand il y a une plainte, elle est instruite et que il faudra probablement expliquer à Madame le haut commissaire l'ensemble des faits et notamment l'extrême violence qui s'est déchaînée sur les forces de l'ordre. J'aime beaucoup entendre les conseils du haut commissaire de l'ONU. Enfin, je rappelle que la République, à la fin, elle est la plus forte.
En ce vendredi, c'est la Journée internationale des droits des femmes. La Fondation des femmes lance une campagne de communication. Objectif, recueillir un maximum de dons pour les associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Campagne soutenue par des artistes comme Muriel Robin.
La Fondation des femmes et d'autres associations font un travail magnifique, mais il faut de l'argent pour créer des lieux, pour sauver des vies, parce que les chiffres sont pires cette année que l'année dernière. Aujourd'hui, on est à un assassinat tous les 2 jours. Donc, avec de l'argent, les associations peuvent faire des choses, évidemment.
Mardi, la direction du travail entérine la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort. Avec ses 850 salariés, la moitié devrait être licenciée. Pas question d'accepter cela, dit le délégué CGT de Ford Blanquefort, Vincent Alloz.
La loi est très permissive pour les employeurs, d'autant plus des multinationales puissantes comme Ford. Donc tout est fait pour qu'ils arrivent à leur fin. C'est les lois récentes qui permettent. On sait que le motif économique, il est faux. On avait une entreprise rentable. On a de quoi faire quelques reproches légaux à la multinationale, ce qu'on va faire très rapidement.
Voilà le mix de la semaine signé Jérôme Chélius. Dominique Blanc, que retenez-vous de ces événements marquants de la semaine?
Ah, écoutez, je retiens la condamnation de Monseigneur Barbarin, parce que je pense que l'Église catholique, avec tous les scandales de pédophilie qu'il y a eu, c'est important que justice se fasse. J'ai découvert sur Arte, mardi soir, un documentaire édifiant sur le viol des religieuses dans tous les pays du monde, c'est-à-dire sur le plan international. Je crois que l'Église catholique a vraiment un gros travail à faire d'enquête et que justice soit faite, parce que c'est vraiment incroyable d'hypocrisie et de... Qu'est-ce qu'on peut dire de dissimulation, quoi, vraiment.
C'est aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes, Dominique oui. Blanc. Quel est le combat, selon vous, prioritaire dans la défense de ces droits des femmes?
Alors, si on pense à notre pays, égoïstement, je pense que c'est l'égalité professionnelle, parce que c'est l'égalité du salaire, l'égalité des conditions de travail. Elle est loin d'être faite. En écoutant les actualités à 18h, là, vous rappeliez qu'il y avait 26% d'écart au niveau des salaires entre les hommes et les femmes. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. On est un pays qui est... vraiment très en retard de ce point de vue-là. Je pense que le mouvement MeToo a suscité aussi beaucoup de vagues et que le silence est effectivement terminé. Il est temps que les choses se disent, que la justice soit faite, mais dans tous les domaines finalement. Puisqu'on se rend compte que ce soit dans le milieu journalistique, enfin dans tous les domaines, il faut que justice soit faite. Et de ce point de vue-là, les femmes sont encore les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus exposées, finalement.
Vous parlez de l'égalité salariale, oui. De l'égalité dans les conditions de travail entre oui. hommes et femmes. Est-ce que cette égalité, elle existe dans le monde du spectacle, au théâtre, au cinéma ?
Alors, certainement pas.
À la Comédie Française, par exemple.
Bah, écoutez, je voulais me renseigner sur la parité et sur les salaires, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que oui. Mmh. En tout cas, dans la troupe, il y a une vraie parité. Dans le milieu du cinéma, si vous voulez, je pense que tant que les femmes ne seront pas à égalité dans le domaine de la production, la parité ne se fera pas. Il faut qu'il y ait autant de productrices femmes que de producteurs hommes. Or, nous savons bien que les lieux de pouvoir, c'est-à-dire là où est l'argent, tous ces lieux-là sont tenus par les hommes. Il faut que les femmes deviennent de plus en plus productrices. Il y a énormément de femmes réalisatrices en France. Je pense qu'on est un des pays dans le monde où il y a le plus de réalisatrices, où il y a aussi le plus de chefs opératrices. Donc, il y a vraiment des artistes considérables. Mais il faut qu'au niveau de l'argent, au niveau des projets qui sont déposés, des scénarios, des films qui sont faits, il faut qu'il y ait plus de femmes dans le milieu de la production.
Vous avez parlé du mouvement MeToo, oui. Harcèlement, sexisme, violence, des mots, oui. des gestes. Oui. Vous avez vécu ces situations ou avez-vous été témoin de ce genre de situation ? Est-ce que vous avez aidé des femmes victimes de ces situations horribles ?
Bah, écoutez, dans le milieu du cinéma, moi j'ai connu effectivement des attitudes extrêmement choquantes, comme par exemple quand j'étais jeune fille sur un film de cinéma, bon, vous avez un rôle important et puis le partenaire qui est en face de vous à la première prise décide tout d'un coup de vous rouler une pelle, pardon, mais il n'y a pas d'autre expression. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce que vous faites ? Mmh. Vous voyez ?
Et là, vous avez le sentiment que les choses vont changer maintenant ?
J'espère.
Parce qu'on en parle beaucoup, parce que la parole se libère, parce que les lois changent. Hein ?
Oui, moi j'ai été très, très choquée il y a quelques jours ou quelques semaines par ce qui s'est passé au niveau de la Ligue du LOL, par exemple, dans l'univers des médias. Je crois vraiment que tout univers confondu, si vous voulez, je pense qu'il y a, au niveau des mentalités, il y a vraiment quelque chose qui doit être fait, mais probablement dans les premiers temps de l'enfance, c'est-à-dire au moment de l'éducation. Je crois que ça, c'est très important. Le journal Le Monde, aujourd'hui, faisait paraître à nouveau une interview de Simone de Beauvoir, une interview exceptionnelle de modernité. Je crois que nous avons la chance d'avoir chez nous cette femme féministe qu'est Simone de Beauvoir. Il faut relire Simone de Beauvoir. Il faut que dans les maternelles, dans les écoles primaires, il faut aussi que ce travail soit fait. Il faut... Bon, je lisais par exemple une pétition qui avait été faite où il y avait des livres de sciences naturelles qui sont édités, qui sont dans des écoles où aucune connaissance et aucune connaissance n'est faite autour du clitoris, par exemple. Vous imaginez tout ce qui doit être fait, dénoncé et tout ce qui doit être dit et changé, c'est considérable. En France, c'est considérable.
Et vous avez raconté cette agression dont vous avez été victime et à l'époque, vous n'avez rien dit, rien
fait. Ben, je suis allée voir le réalisateur et puis ouais. Je lui ai dit, si ça se reproduit, moi je m'en vais. Mais en face, c'était un monsieur très connu.
Et puis il y a désormais cette loi qui existe contre les violences sexuelles et sexistes depuis son entrée en vigueur en septembre l'année dernière. 332 amendes, c'est un chiffre encourageant selon
oui.
vous.
Oui.
Et si, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à une jeune femme, une jeune comédienne qui débute dans ce métier et qui peut être confrontée à ce sexisme, à ce harcèlement ?
De se battre.
Tout de suite, ouais.
Oui, mais si vous voulez, pour être honnête, je vois beaucoup de jeunes comédiennes là à la Comédie Française, parce que nous avons de jeunes pensionnaires, bien sûr, et puis nous avons aussi les académiciennes, qui sont des jeunes femmes qui ont fait déjà 3 ans d'école nationale. Je peux vous dire que devenir comédienne aujourd'hui, c'est aussi difficile qu'à mon époque, c'est-à-dire à la fin des années 70. Parce que les clichés sont aussi forts, les critères de physique, tout est encore plus difficile que ça ne l'était à mon époque. C'est difficile dans le cinéma, c'est difficile dans le théâtre. Je crois maintenant que les jeunes femmes s'en sortent parce qu'elles fondent et parce qu'elles créent des compagnies. Mais quand vous êtes tout seul, véritablement tout seul, que vous n'avez aucun réseau, que vous ne connaissez personne et que vous débarquez à Paris comme moi ça m'est arrivé venant de Lyon, je peux vous dire que c'est impossible, impossible. Il y a une solitude immense. Donc il faut, la seule chose qu'on peut faire, c'est être solidaire. Voilà, je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. La solidarité entre femmes. Bon, moi je vais avoir 63 ans, j'ai une carrière où j'ai eu une chance considérable, j'ai connu aussi un certain nombre d'échecs, c'est un métier qui est d'une extrême difficulté. Donc la seule chose que je peux faire moi à mon niveau, et j'essaye de le faire, c'est transmettre et aider. Ça bien sûr il faut le faire, mais la solitude est considérable.
Vous avez parlé des clichés. Par exemple.
Mais des clichés de physique, par exemple, ouais. Les blondes aux yeux bleus, par exemple. Ouais. Enfin bon, la publicité, il n'y a pas très longtemps, que je ne vanterai pas, mais qui a fait scandale hier ou avant-hier.
Mmh. D'une jeune femme en jean.
Une jeune femme en jean, oui.
Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Dominique Blanc, c'est un plaisir de vous recevoir. On va écouter Mieux Sec sur l'album Les Rescapés. Il y a cette chanson, Les gens quand ils sont les uns dans les autres.
S'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire
Les musiques qu'on aime sur France Inter, Miossec.
France Inter, le 18-20, Pierre Veil.
Et une semaine en France avec notre invité, Dominique Blanc. Dominique Blanc, vous êtes pensionnaire de la Comédie Française depuis 3 ans. Quand on entre dans cette maison, est-ce qu'on se sent investi d'une mission particulière?
Ah, bonne question. Oui, je crois. On a, enfin moi, je me suis dit en tout cas que j'avais un devoir d'excellence. Voilà, parce que la Comédie Française, c'est une espèce. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je pense que c'est une espèce de trésor national qui existe depuis le XVIIe siècle. C'est une chose que le monde entier nous envie. Donc, quand on entre dans cet endroit, on se dit j'ai devoir d'excellence, c'est-à-dire d'être présente le plus possible et le mieux possible. J'ai réalisé, en fait, il y a, je sais pas, une semaine ou deux, que ça faisait 3 ans. Je n'ai rien vu passer. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Mais je n'ai rien vu passer parce que j'ai participé à des projets qui étaient totalement enthousiasmants. Qu'il s'agisse de travailler avec Lars Norén, par exemple, grand auteur dramatique suédois, le plus grand auteur dramatique traduit au monde et joué au monde, de jouer Poussière, c'est quand même incroyable, sur des vieux Européens qui vont au bord de la Méditerranée en vacances, où il y a des migrants qui viennent mourir sur la plage. Bon, comment aurais-je pu rêver de ça en entrant aux Français, voyez? Et puis participer au Testament de Marie, spectacle au Théâtre de l'Odéon, mis en scène par Deborah Warner, avec un auteur irlandais qui s'appelle Colm Tóibín. J'aurais jamais pu imaginer ça. Comme de jouer Fanny et Alexandre, avec 19 comédiens sur scène, où la critique est unanime sur les 19 comédiens, avec un climat de joie vraiment et de partage sur ce spectacle d'après Ingmar Bergman. J'aurais jamais pu imaginer tout ça.
Entrer à la Comédie Française, c'est comme une remise en cause, un défi que vous vous lancez.
Oui.
Votre carrière formidable, si riche, et là la Comédie Française, c'est comme un nouveau départ.
Oui, c'est une... moi je pense que c'est une nouvelle vie. Parce que tout d'un coup, je suis pas rentrée n'importe comment, en même temps je dirais, je suis rentrée à l'invitation d'Éric Ruff et aussi à celle de Stéphane Braunschweig qui voulait monter Britannicus mais revisiter, je dirais, en contemporain, vous voyez, en costume contemporain. Donc de nouveau, le défi c'était le vers racinien. J'avais joué Phèdre, j'avais adoré ça. J'adore Racine, je pense que c'est un des plus grands auteurs de alors pour le coup, d'écriture et de personnages féminins, Racine, Jean Racine, vraiment. Au même titre que Tchekhov, au même titre que Bergman d'ailleurs. Et là, il fallait défendre le vers racinien, mais cette Agrippine ne me plaisait pas du tout. J'adorais Phèdre, mais Agrippine, je ne comprenais pas. Et puis, je suis allée travailler sur le personnage, sur sa vie, sur sa biographie. Et puis, il a fallu de nouveau dompter le vers racinien. C'est pas du tout la même écriture que Phèdre, évidemment. Et puis, ça s'est fait. Et puis, ça a eu un succès incroyable. Donc, si vous voulez, on l'a joué. Vous savez, aux Français, maintenant, il y a cette espèce de chose où on est projeté dans des cinémas. C'est-à-dire on joue en direct au théâtre et en même temps toute la France et puis tous les instituts français dans le monde vous découvrent en gros plan au cinéma en jouant Agrippine. C'est extraordinaire.
C'est une pesanteur de sentir cette excellence de la Comédie Française. Vous avez utilisé ce mot excellence.
Oui. Non,
c'est l'élite.
C'est pas une pesanteur, non. Enfin, moi j'essaye que ce soit pas une pesanteur parce que à l'âge que j'ai, je me dis il faut vivre tout avec une extrême légèreté. Et une extrême jouissance. Je parle rarement de ma vie privée, mais j'ai la chance de vivre avec un homme exceptionnel qui travaille dans les Lumières, qui est un très grand artiste. Et il se trouve qu'il y a 1 an et demi, son cœur s'est arrêté 3 minutes. Ça a été une déflagration pour moi incroyable. C'est-à-dire que maintenant, je vis tout dans le présent. J'essaye d'être dans l'excellence de mon métier, mais je profite de chaque instant, je ne sais pas comment vous dire. Et pour lui, qui est un homme d'exception, et pour mes enfants, qui sont bien évidemment des jeunes femmes d'exception. Mais voilà, ça, si vous voulez, ça a tout ramené au concret, vous voyez ?
Vous avez mille fois raison. Vivre intensément.
Intensément.
Chaque instant. Quel est le quotidien de la pensionnaire Dominique Blanc à la Comédie Française? Comment participez-vous au choix des pièces qui vont entrer au répertoire? Comment se fait l'attribution d'un rôle? Moi, je ne connais pas du tout les coulisses. Alors,
il y a une grande hiérarchie parce que sinon la Comédie Française n'existerait pas. Je ne suis qu'une pensionnaire. Oui. Donc, à la fin de chaque année, si vous voulez, on peut se débarrasser de moi comme je peux me débarrasser d'eux. C'est-à-dire que j'ai le choix de la liberté. C'est pour moi le choix le plus important. Je ne suis pas sociétaire. Si j'étais sociétaire, j'aurais beaucoup plus de responsabilités et je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Parce que, comme vous le savez, l'administrateur engage, mais le comité dégage.
Oui.
Ça, je suis pas sûre d'avoir envie de le faire.
Vous parlez de théâtre quand même avec les sociétaires, avec Eric Ruff.
Oui, oui, avec tout le monde. Mais en tant que pensionnaire, je ne participe pas à la programmation. Je le regrette d'ailleurs, mais on ne demande pas mon avis. Mais j'en ai un. Mmh. Je ne me gêne pas pour le dire. Par exemple, sur Fanny et Alexandre, nous sommes très présents dans la première partie, un peu moins dans la deuxième partie, donc je discute avec mes fils. Alors mes fils, c'est Denis Podalydès, c'est Hervé Pierre, c'est Laurent Stocker, vous voyez? Donc je discute avec eux, je discute avec mes belles-filles qui sont admirables, c'est Elsa Le Poivre, c'est Florence Viala. Je discute avec le plus de monde possible.
Elle vous demande des conseils?
Quand elle m'en demande,
et il, Denis Podalydès.
Quand il m'en demande, moi je réponds très franchement.
Oui.
Oui. Mais de façon très intime. Hein. Donc je peux pas forcément dévoiler tout.
Ah, dites-nous un peu ce qu'il vous demande. Voilà, il vous demande des conseils sur la diction,
non,
sur l'attitude, sur le geste.
Non, les garçons pas trop. Les filles, c'est dans l'intimité, donc je pourrais pas forcément dévoiler des secrets. Ceux qui me demandent des choses plus, c'est la jeunesse. Et là, j'y vais, là, je me lâche. La jeunesse, c'est-à-dire Rebecca Marder qui joue Fanny, c'est-à-dire Anna Servinka qui joue dans Une chanson douce, qui est une comédienne que j'adore, c'est-à-dire les deux académiciennes qui sont avec nous dans Fanny et Alexandre, qui ont fait un travail d'ailleurs considérable il y a pas longtemps, c'est Noémie Pastéger et Léa Schweitzer. Voilà. Elles ont joué dans un spectacle qui est un spectacle d'académiciens qui a été monté, une espèce d'atelier de théâtre, si vous voulez, que j'ai vu la semaine dernière, qui a été monté par Béatrice Bienville. C'est l'histoire de Médusa, donc ça se passe dans l'Antiquité. Vous savez, Médusa, c'est cette figure qu'on connaît dans les Beaux-Arts, avec des cheveux en serpent et puis cette bouche totalement déformée. Eh bien, ce spectacle devrait être joué au Vieux Colombier ou au Studio Théâtre, parce qu'il a été mis en scène par une jeune femme qui a fait l'ENSAT et qui a fait un travail de mise en scène et d'écriture considérable. Donc moi, à ce niveau-là, au niveau de la transmission, là, j'y vais beaucoup, oui.
Dominique Blanc, comme chaque vendredi dans Une semaine en France, oui. Un regard optimiste. Ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Alors, écoutez bien son reportage, ça devrait vous intéresser. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Sandrine, vous avez eu un vrai coup de cœur pour une opération du Secours Populaire baptisée Une journée pour soi. À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, objectif de cette opération, offrir à plusieurs centaines de ses bénéficiaires, justement, le droit d'être femme.
En tout cas, ne pas oublier qu'elles le sont. Évidemment, quand on est maman, qu'on a 3 enfants à charge, qu'on n'a plus rien dès le 15 du mois, on pense d'abord à remplir le frigo avant de s'acheter du rouge à lèvres. Pour les retraités, c'est pareil. Avec le minimum vieillesse, on pense d'abord à payer ses factures avant le brushing chez le coiffeur. Sauf que du coup, ces femmes, elles ne s'accordent plus rien. Certaines ont même carrément renoncé à leur féminité.
D'où cette belle opération du Secours Populaire, une journée rien que pour elles, avec séance de maquillage, shooting photo par des professionnels et sortie culturelle.
Voilà, en fait, c'est juste appuyer sur pause, leur apprendre qu'il existe ce bouton pause et qu'elles y ont droit, comme toutes les autres.
Alors Sandrine Houdin, l'opération, elle a commencé à Saint-Denis, en région parisienne. Elle est passée par Marseille, elle passera aussi par Reims et Carcassonne. Mercredi, c'était le tour de Roubaix et vous avez assisté à leur séance de maquillage.
Là c'est un marron, mais peut-être marron un peu trop foncé. Peut-être vous voyez celui-ci, je vais vous montrer sur ma main.
Je suis une nouvelle femme, je ne sais pas si mon mari va me reconnaître. C'est trop bon.
Allez-y, fermez les lèvres.
J'ai l'impression que la dame est dans un autre monde là.
J'aimerais bien rester toute la journée ici. Hein.
Bon, allez, on efface et on recommence.
J'aime bien qu'on prend soin de moi.
Pourquoi c'est rare?
Honnêtement, Je prends pas soin de moi, je prends pas le temps pour moi, en fait, quand.
Devant chaque miroir, le même aveu.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Ben, je vous laisse faire parce que je me suis jamais maquillée.
Allez, c'est parti. Là, je vais vous mettre une petite crème. On maquille pas sur une peau toute nue.
Anne-Sophie ferme les yeux. Elle non plus ne prend pas le temps de s'occuper d'elle.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on pense aux enfants, à la maison, mais jamais à nous. Trop de soucis aussi. On se laisse un peu aller. C'est difficile.
Même si c'est une seule journée,
ça fait du bien. Même si c'est très court, on prend quand même. Parce qu'au moins, c'est pour nous. Voilà. Même si j'ai un peu peur. Hein.
Vous allez voir.
Aurélie tapote légèrement le visage d'Anne-Sophie. Elle n'en revient pas du bonheur qu'elle procure à toutes ces femmes.
Ah oui, oui. On pourrait même prendre une photo de la personne, comment elle se regarde avant dans le miroir et après le maquillage. C'est énorme. Je pourrais faire ça toute la journée, même sans pause-déj, quoi.
Pourquoi ces larmes ?
Bah, c'est que je reçois. Je reçois plus que je donne. Parce que là, la dame, elle m'a dit des compliments. C'est hyper touchant, quoi.
Ah, mais ça vous fait pleurer.
Ouais, mais je pleure jamais pour quelque chose de triste. Je pleure toujours pour les choses bien.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de leur apporter à ces femmes par rapport à vos clientes traditionnelles ?
C'est dur à traduire, ça. Elles n'ont aucune exigence. Ça se voit qu'elles ont l'habitude de ne quasiment rien avoir. Hein. Rien pour elles. Elles pensent plus à ce qu'elles vont manger ce soir. Est-ce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde ? Donc ça, c'est vraiment du superflu. Hein. Du maquillage, ça ne se mange pas. Et elles pensent que ça n'apporte rien dans la vie. Même le « pourquoi je me ferai belle ?» Se regarder dans le miroir quand la vie ne vous apporte pas grand-chose, je pense que ça ne va pas trop donner envie de se regarder dans le miroir et de s'embellir. Quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez déjà ?
Elle adapte à ma peau.
Et Fontaine, vous avez jamais mis ?
Non, jamais.
Là, c'est Delphine qui se fait maquiller, mais c'est pour sa mère qu'elle est venue ici.
Même question vestimentaire, je lui dis, je veux qu'elle avance de l'avant et qu'elle perde pas l'espoir de dire que la vie, elle est encore devant elle. Tout ce qu'elle a eu comme souci, elle voulait déjà partir, quoi. Et je lui dis, non, c'est pas le moment, il faut que tu restes là et on est là derrière toi. Donc du coup, je l'ai fait venir aujourd'hui avec moi.
Comment s'appelle votre maman ? Je vais aller la voir.
Maman, elle s'appelle Martine. Elle est juste en face de vous.
Dis donc, merveilleuse, là.
Ah bon ?
C'est vous qui avez demandé du bleu autour des yeux ?
J'ai toujours aimé le bleu.
Votre fille m'a dit, j'ai tiré maman pour venir.
C'est vrai ? Oh oui, je voulais pas venir.
Pourquoi vous vouliez pas venir ?
J'aime bien rester chez moi, tranquille.
En tout cas, vous êtes jolie, là.
Ah oui, merci.
Alors,
c'est Anne-Sophie. Son maquillage est terminé.
Bah, je me trouve belle pour une fois, ça fait bien.
Pourquoi vous dites ça ?
Je me trouve jolie.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous sentez moche d'habitude ?
Oui.
Toutes se sentent transformées.
On est belles comme ça.
Qu'est-ce que vous avez dans vos petits sacs ?
On a un masque et on a trois rouges à lèvres différents. C'est pour nous, c'est pas pour les autres.
Ça fait longtemps que vous ne vous étiez pas accordé comme ça à un moment et rien pour vous ?
Des années. Le mannequin d'un jour.
Et ça fait du bien.
Ah oui.
Nora Chieb, la responsable de Roubaix, ne les reconnaît même pas.
Quand elles viennent nous voir, c'est avec un visage fermé. Il y en a même qui pleurent carrément. Je vois les visages qui rayonnent. C'est extraordinaire.
C'est quasiment comme si elles avaient lâché le côté femme.
Eh ben, c'est exactement ça. Mais je m'exclus pas du lot. Hein.
Vous êtes dans quelle situation ?
En instance de divorce. Je me suis retrouvée sans rien que les prestations de la CAF avec 4 enfants à charge. Quand votre ex ne donne pas un centime pour subvenir aux besoins. Quand je vois ces femmes-là, je suis vraiment dans chacune d'elles. Je me représente et je me vois vraiment en elles. Toutes les femmes qui sont là.
Ma chronique s'appelle les bonnes ondes, donc il faut sourire.
Mon maquillage va couler, oui.
Ce sont des larmes de bonheur, on va dire.
Exactement, des larmes de bonheur.
La vie captée par Sandrine Houdin. Voilà, ces femmes.
Magnifique,
ah oui. Ces femmes de Monique Blanc qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Et là, on leur donne cette possibilité. Il y a un chiffre, 4,5 millions de femmes en France souffrent de pauvreté. Elles forment plus de la moitié des personnes aidées par le Secours Populaire.
Ah oui, c'est énorme. C'est énorme.
Est-ce que le théâtre devrait refléter peut-être plus souvent cette réalité des gens qui vivent dans la difficulté, des gens qu'on a pu découvrir à l'occasion de cette crise des Gilets jaunes ? Bien sûr, il y a eu des excès, il y a eu des violences, mais on a entendu des vies difficiles.
Oui, des vies qu'on ne voit pas et des vies qu'on oublie. Et c'est vrai que quand les conditions sont extrêmement difficiles, les femmes ont tendance à se mettre en retrait et à se zapper. C'est ce qu'on sent dans ce reportage. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des journées qui étaient uniquement consacrées aux femmes des Gilets jaunes ou aux femmes Gilets jaunes elles-mêmes. Et là, on a pu découvrir incroyablement de misère, de pauvreté, de solitude. C'est vrai que c'est le film Les Invisibles qui racontait ça aussi.
C'est un personnage qui vous inspirerait de jouer une femme en difficulté, une femme seule ?
Bien sûr, pourquoi pas. Je vais vous dire une chose. Il y a 20 ans, en 97 je crois, pour Arte, avec Claire Devers, on avait tourné une fiction Vous devez vous rappeler de cette histoire. C'était l'histoire d'une femme qui volait de la nourriture pour nourrir ses enfants. Vous vous en rappelez ?
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai maintenant, oui.
Eh bien, je serais prête à faire le remake. Parce que 20 ans après, ça n'a fait qu'empirer. Je ne pense pas que ça se soit amélioré.
Dominique Blanc, qu'est-ce qui vous fascine dans ce monde que nous vivons en 2019, un temps où les changements vont très très vite ?
Qu'est-ce qui me fascine ? Oula. Je crois que ce que je regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup d'espoir, c'est la jeunesse. Vous voyez, ça peut être la jeunesse en Algérie aujourd'hui, la jeunesse chez nous, qui n'est pas acceptée par notre société, qui essaye absolument d'y rentrer par tous les moyens et sous toutes les formes. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui est tellement dure, tellement hiérarchisée, tellement, bon, le fameux plafond de verre et tout ce qu'on sait. On a l'impression que cette jeunesse, qui a été traumatisée par les attentats, par Charlie Hebdo, par tout ce qui s'est passé, cette jeunesse qu'on critique parce qu'elle est beaucoup en terrasse, qu'elle fume et qu'elle s'alcoolise, mais finalement, cette jeunesse, on n'en veut pas. C'est terrible, je trouve. Et moi, c'est elle que je regarde.
C'est ce qui vous...
Et j'y mets beaucoup d'espoir et d'espérance.
Et qu'est-ce qui vous révolte absolument ?
L'injustice, toujours. Je pense que c'est l'injustice. Quand j'ai vu je reviens sur ce documentaire d'Arte avec ces religieuses qui sont violées, mais dans le monde entier, par exemple en Afrique où le sida était très présent et où les prêtres utilisaient les religieuses pour leurs besoins sexuels, etc., etc. C'est l'injustice. Et puis, je pense aujourd'hui particulièrement l'injustice au féminin parce que ça n'est pas la journée de la femme où on vous offre une fleur et puis on vous laisse passer devant parce que c'est la journée de la femme. C'est la journée internationale des droits de la femme. Et ça, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, vraiment.
Dominique Blanc, quelles sont vos passions quand vous ne jouez pas au théâtre ou au cinéma ?
Ah, écoutez, je me suis dit que j'allais me mettre au jardinage, mais finalement, j'y arrive pas. Mais peut-être que j'y arriverai un jour.
Mais vous avez besoin d'oublier le théâtre, le cinéma, vos personnages, alors vous pensez, vous faites autre chose ?
Non, écoutez, ça me passionne toujours autant.
Je suis indiscret.
Ça me passionne toujours autant. J'ai la chance de vivre de ma passion. Ça, c'est une chance incroyable et exceptionnelle. Je vais vous faire un aveu. Je crois que maintenant, j'aimerais passer de l'autre côté. C'est-à-dire m'intéresser beaucoup à la mise en scène. Parce que c'est une chose auquel je pense depuis des années. Et je crois que je ne me suis jamais fait assez confiance, vous voyez. Je pense que...
Vous doutez, vous doutez de vous ?
Mon métier est basé sur le doute. Je doute de moi en permanence, c'est un aveu que je vous fais. Donc j'aimerais un jour me faire suffisamment confiance pour pouvoir faire des films. J'ai fait un documentaire il y a longtemps, mais bon, c'était sur une femme assez exceptionnelle d'ailleurs. Sandra Kalniete, qui est une femme qui est dans la politique en Lettonie. Et puis j'aimerais réaliser davantage, mettre en scène au théâtre peut-être. Enfin vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Dominique Blanc, je signale, vous allez participer au Festival de cinéma de Valenciennes qui se déroule du 19 au 24 mars. Eh bien, le 20 mars, vous serez à Valenciennes.
Oui.
Une soirée vous est consacrée avec plusieurs films projetés et puis des échanges avec les spectateurs. C'est enrichissant de parler avec les admirateurs.
Ah mais c'est génial.
Ouais.
D'abord, moi, j'adore aller en province, soit au théâtre, soit au cinéma. Et puis, le contact direct, c'est irremplaçable.
Dominique Blanc à la Comédie-Française, Ingmar Bergman, Fanny et Alexandre. Une actrice, elle transmet l'émotion, la vérité intérieure. Elle nous révèle à nous-mêmes. Elle nous fait comprendre la vie pour souvent mieux la supporter. Elle nous fait douter. Elle nous enrichit. Et ben c'est tout cela, Dominique Blanc. Et moi, admirateur fidèle, je viens de passer près d'une heure avec Dominique Blanc, avec vous qui nous écoutez. C'était un moment de grâce.
Merci
beaucoup d'être venu nous voir.
Merci à vous.